Réplique, la Révolution, la République, la France, avec Mona Ouzouf et Patrice Guénifet. On s'accoutume trop dans la solitude à ne penser que comme soi, a écrit Fontenelle. Pour lutter contre cette dangereuse habitude, pour remonter cette pente dans laquelle je risque de glisser comme tous ceux qui passent le plus clair de leur temps assis à leur table de travail, la Providence et Jean-Marie Borzex m'ont fait cadeau de l'émission Réplique. Chaque semaine, depuis 30 ans, j'ai l'obligation et la chance de sortir de moi-même et tâchant du mieux que je peux d'imiter Montaigne, je m'avance vers celui ou ceux qui me contredisent, qui m'instruisent, la cause de la vérité étant la cause commune aux uns et aux autres. C'était pour fêter en public les 30 ans de Réplique qu'avait été conçue cette émission « La Révolution, la République, la France ». La grève du mois de mars en a décidé autrement. La fête aura lieu, si tout va bien, à la rentrée. Mais cette contrariété ne peut gâcher le plaisir qui est le mien d'accueillir, dans l'intimité d'un studio de Radio France, Mona Ouzouf et Patrice Guénifet. Mona Ouzouf, dont l'œuvre m'éclaire autant qu'elle m'enchante depuis longtemps, publie aujourd'hui « De Révolution en République, les chemins de la France ». Patrice Guénifet, qui, avant de se lancer dans une monumentale biographie de Napoléon, a publié « La politique de la terreur », un essai magistral sur la violence révolutionnaire. Et puisque Réplique honore et pratique le dialogue, je voudrais partir de celui qui a opposé, dans les premiers temps de la Révolution française, deux très grands esprits, l'anglais Edmund Burke, qui affirmait que l'État est une association non seulement entre les vivants, mais entre les vivants et les morts, et tous ceux qui vont naître, et l'Américain Thomas Paine, qui défendait le droit des vivants et s'insurgeait contre l'autorité usurpée des morts. Quel est le sens profond de cette dispute? En quoi est-elle exemplaire? Et question subsidiaire, entre Burke et Paine, tout compte fait, qui choisissez-vous, Mona Ouzouf?
Alors d'abord, c'est une controverse en effet exemplaire. Elle a traversé deux siècles jusqu'à nous. Elle nous concerne toujours. Elle est présente dans nos discussions sur l'école, puisque l'école est le lieu même de la transmission de l'héritage des morts. Et par ailleurs, je crois qu'elle nous divise tous. Elle nous divise tous parce que nous sommes à la fois des partisans de Burke. On peut même dire que par tempérament, par affectivité, je me sens très burkéenne. Je n'aime que les choses qui durent dans l'existence, ce qui me met évidemment du côté de Burke. Et en même temps, je pense avec peine qu'il y a une liberté par rapport à l'héritage, quel qu'ait été l'héritage. Il y a une très belle phrase, je trouve, de Frantz Fanon, inattendue, qui dit « Je ne suis pas prisonnier de mon histoire, je suis nègre et des tonnes de chaînes, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules et cependant, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa nos pères. » Donc là, il y a quelque chose qui résonne en nous de la leçon de Paine. Et je crois qu'au fond, nous sommes constamment en train d'arbitrer entre les deux philosophes.
Mais en même temps, Burke ne fait pas de nous les esclaves d'un régime despotique. Il est attaché à un héritage dont il montre l'importance, pour lequel, dit-il, il faut avoir de l'affection. Et il y a chez lui une réhabilitation très paradoxale aux yeux de ceux qui avaient été formés par les Lumières, du préjugé. Le préjugé comme sagesse des morts, en quelque sorte.
Le préjugé adoucit la vie.
Oui. C'est ça, donc c'est ça aussi, c'est ça la thèse de Burke, d'où l'idée d'une très grande prudence dans les réformes de l'État.
C'est la prudence du jardinier.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut élaguer juste ce qu'il faut, Il ne faut pas tailler à tout va. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans un jardin. C'est un peu la sagesse insulaire du jardinage qui s'exprime parfois dans Burke.
Oui, s'il faut choisir entre Burke et Paine, si j'avais vécu en 1789, je ne sais pas si j'aurais été du côté de Burke. Probablement j'aurais été du côté de Paine, sortant d'une société d'ancien régime. J'aurais pensé qu'en effet la tyrannie du passé ou la domination du passé devait être secouée. Deux siècles après, il est difficile de ne pas être du côté de Burke, parce que l'histoire nous a appris que l'idée même de la rupture et du recommencement du monde à neuf, toutes les générations, tous les 25 ans, comme le voulait Condorcet et d'une certaine façon Paine, recélait bien des tragédies. De plus, Burke n'est pas l'avocat de l'immobilité ou de la prison du passé. Le conservatisme de Burke, son attachement aux traditions, n'exclut pas le changement, puisqu'il a été un partisan des Américains, notamment
la révolution américaine,
que précisément il ne percevait pas comme une révolution, mais comme un processus de réforme, de justice. Et c'est là probablement où est sa limite vis-à-vis de tout phénomène révolutionnaire. Alors, je crois qu'en effet, deux siècles après, il y a plus de Burkéens que de partisans de Paine, du moins je l'espère.
Alors oui, Burke qui disait « Vous avez mal commencé parce que vous avez commencé par mépriser tout ce qui vous appartenait. Vous avez cru pouvoir vous établir en vous passant de tout capital. » Et il dit « Il faudrait que nul ne songe à commencer la réforme de l'État en le subvertissant. On doit se pencher sur les défauts de l'État comme sur les blessures d'un père, dans la crainte et le tremblement, et avec une pieuse sollicitude. » Exactement. Une pieuse sollicitude dont il dit qu'elle a manqué aux révolutionnaires. Mais était-il possible, pour sortir de ce que les révolutionnaires eux-mêmes ont appelé l'Ancien Régime, puisque l'Ancien Régime est né de la Révolution, était-il possible d'en sortir autrement, Mona Ouzouf ?
Non, probablement pas. Et de fait, ce qui est là, tout à fait au cœur du sujet, c'est l'immédiate radicalité de la Révolution française, qui est là dès 1789, dans le simple fait de reléguer tout le passé national à un ancien régime où il n'y a plus rien à prendre de précieux. Mmh. Et même où tout cet ancien régime est encombré de superstitions, de préjugés gothiques, il n'y a plus rien à en faire.
Dès 89, on pensait ça.
Oui, bien sûr.
La radicalité est antérieure à ce qu'on a appelé le moment de radicalisation, c'est-à-dire de 93.
Oui, là, je pense que là-dessus, on est...
Elle surgit tout de suite. Elle apparaît tout de suite. Au fond, la Révolution, moi, je la vois comme l'échec des Lumières. Parce que les Lumières avaient conçu un projet de réforme de la société et de l'État par l'État. Et ça n'a pas pu se faire, ce qui a rendu la Révolution, au fond, inévitable. Et ce qu'on voit surgir dans la Révolution, c'est une radicalité dont, bien sûr, on peut chercher les origines dans certains textes, etc., mais qui est quand même un phénomène de condensation très rapide et immédiate, et qui s'exprime le mieux, non pas d'ailleurs dans les textes de Paine qui sont un peu plus tardifs, mais dans la phrase très fameuse de Rabault-Saint-Étienne, « Notre histoire n'est pas notre code », qui résume un peu toute l'ambition révolutionnaire et ce qu'elle contient de rupture, pas seulement dans l'ordre des idées, l'idée d'un monde entièrement nouveau, mais de rupture avec le passé immédiat, avec le XVIIIe siècle.
Bien sûr.
En même temps, alors ce que vous dites peut soulever l'interrogation ou la perplexité, puisque Burke, donc, est attaché au modèle américain, vous dites, mais c'est avec Thomas Paine qu'il a cette controverse célèbre, Thomas Paine américain qui plaide pour la Révolution française et donc le droit des vivants contre l'autorité usurpée des morts, et il y a eu dans la Révolution un représentant des Lumières, un survivant des Lumières, à savoir Condorcet, il est vrai, a eu une fin terrible, il a fini par être décapité. Il n'empêche, il a nous a légué son livre sur les progrès de l'esprit humain,
oui, bien sûr,
dans lesquels il voyait la Révolution quand même comme un aboutissement des Lumières. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Patrice Guénifet, ensuite Mona Ouzouf.
Mais en même temps, la Révolution ne ressemble jamais aux yeux de Condorcet à ce qu'elle devrait être. Pour lui, son itinéraire révolutionnaire, c'est au fond c'est un échec, c'est surtout une tragédie et une désespérance de voir cette Révolution qui ne répond pas, qui est le contraire même de ce qu'il souhaite. Donc de ce point de vue, il est un héritier perdu des Lumières dans une époque de révolution. Mais le lien entre Burke et Paine, c'est aussi que Burke interprète la révolution américaine à la lumière de l'histoire anglaise, mmh, et que Paine réinterprète la révolution américaine à l'épreuve de ce qui se passe en France à partir de 89. Et donc, oui, ça change tout le débat.
Oui, ça change complètement oui, Patrice a absolument raison, ça change complètement le dispositif, parce que pour Paine, l'aboutissement de la révolution américaine, c'est la révolution française.
Oui, bien sûr. Tout à fait.
Voilà. Et par ailleurs, en parlant de Condorcet, on voit aussi à quel point la révolution française est féconde et avec énormément d'acceptions et de visages, parce que si on prend par exemple le mot république, on voit bien que le mot république abrite à la fois précisément l'utopie rationnelle de Condorcet, mais aussi le libéralisme girondin, la dictature jacobine, le régime parlementaire et le premier Bonaparte. Il y a tout ça.
Bien sûr.
Et donc une sorte de foisonnement des formes extraordinaire en très peu d'années.
Mais pour en revenir à ce qui a eu lieu par rapport à ce qui aurait pu avoir lieu. Philippe Reynaud, à la fin de son introduction aux réflexions sur la Révolution de France d'Edmund Burke, cite Rémusat, un penseur donc postérieur de la Restauration, je crois, hein, qui dit « L'erreur de Burke, c'est d'avoir raisonné comme si la France avait eu la même histoire que l'Angleterre, sans voir que pour les Français, le problème était bien d'instaurer la liberté et non de protéger ou de restaurer des droits anciennement acquis. » Et il cite donc Rémusat, « Burke commet une chose, c'est de découvrir la France, des traditions dont elle put se faire des droits, comme on invente des aïeux à qui on veut vieillir sa noblesse. Il lui fallait refaire son histoire pour que la liberté fût historique. »
Oui.
C'est une belle phrase.
Oui, c'est une belle phrase. Et puis ça montre bien la différence aussi entre la Révolution américaine et la Révolution française. Parce que la Révolution américaine, c'est restituer les droits des Anglais sur le sol de la colonie.
Oui.
Les Français avaient un problème infiniment plus compliqué à résoudre. C'est que il y avait un ancien régime.
Mais il y a aussi une question que je me pose à partir de votre accord sur l'idée que la radicalité a commencé tout de suite. Je me souviens des cérémonies du bicentenaire, des polémiques qu'il y avait alors, et il y avait ceux qui disaient la révolution était un bloc, et ceux qui voulaient distinguer 89 de 93, l'embardé, le dérapage, qui n'était plus explicable, selon Furet, par les circonstances, mais qui avait des raisons idéologiques. Mais si vous me dites la radicalité commence tout de suite, donc vous faites à votre tour de la révolution un bloc.
Non, Patrice, allez-y, parce
Patrice
que...
Patrice Guénifet.
Il faut nuancer. C'est-à-dire que effectivement, le discours de 93 est déjà audible en 89. L'Ami du peuple de Marat n'est pas un journal fondé en 93, il est fondé en septembre 89. Et dans les clubs, les sections, etc., le discours de 93 est déjà là. Ça ne veut pas dire pour autant que toute la révolution, c'est déjà dès 89, 93. Il y a plusieurs histoires de la révolution dans la révolution. Et il serait absurde, bien sûr, de mettre sur le même plan 89 et 93, parce qu'à l'évidence, ce n'est pas encore la même chose.
Bien sûr. Hein ? C'est du reste tout le problème de la datation de la terreur. De quand date-t-on la terreur ? Les historiens de la contre-révolution vont vous dire que la terreur date du 14 juillet 1789. En revanche, ceux qui défendent la révolution vont vous dire que la terreur commence le 22 Prairial, c'est-à-dire avec l'aggravation de la loi des suspects.
Des suspects.
Donc, il y a une révolution, il y a une terreur consubstantielle à la révolution pour la pensée contre-révolutionnaire, et puis il y a une terreur presque anecdotique, tout à fait au bout, qui est celle qu'invoquent le plus souvent les partisans de la révolution. Mais entre ces deux dates, il y a 1000 dates possibles pour dater la terreur, ce qui veut dire qu'au fond, il y a à chaque fois un tour d'écrou supplémentaire donné à la contrainte et à l'abandon du droit. Donc on peut discuter à l'infini de la date de la Terreur. Du reste, il y a des controverses magnifiques qui se sont développées à ce sujet. Par exemple, la controverse de Michael Walzer et de Ferenc Fehér
sur le procès du roi.
Est-ce que oui ou non on est dans la Terreur? Oui, dit Ferenc Fehér. Non, dit Walzer, parce qu'il y avait encore une certaine préoccupation des droits de la défense. Et parce qu'après tout, dans le procès du roi, les révolutionnaires ont envie de faire quelque chose de mieux que les Anglais. Quelque chose de plus conforme à la légalité. Donc le souci de la légalité n'a pas encore complètement disparu. Non. Les deux thèses peuvent se plaider. Mais si elles peuvent se plaider toutes les deux, ça veut dire que la date de la Terreur peut être discutée à l'infini.
Il n'y a pas que la Terreur, il y a peut-être aussi la place de l'idéologie. Vous parlez, Mona Ozouf, dans ce livre que j'ai cité, de Révolution en République, de l'ambition artificialiste illimitée de la Révolution française.
Oui, oui.
L'idée, en effet, que tout est politique, mais surtout que la politique peut tout.
Bien sûr.
Et même éradiquer le mal.
Oui.
Ça, c'est une manière de comprendre Rousseau, en quelque sorte. Si l'inégalité est à l'origine du mal, eh bien, c'est en luttant contre l'inégalité qu'on va faire disparaître le mal. Donc, ce tout ou rien, cette table rase, est-ce que ça, c'est présent dès les débuts de la Révolution française?
Oh, c'est en germe.
C'est en germe, oui.
C'est en germe, en tout cas. La constituante retentit de phrases triomphales du genre « Nation française, tu n'es pas faite pour recevoir l'exemple, mais pour le donner ».
L'idée de régénération que vous avez étudiée.
L'idée de régénération.
Voilà, qui est là dès le début.
Est là dès le début. Oui.
Dans les discours de Mirabeau, donc dans les discours même de gens très modérés, au fond, comme Mirabeau, mais qui parlent ce langage qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite ce sentiment qu'il n'y a pas d'héritage de l'Ancien Régime.
Oui.
C'est-à-dire que le passé n'a rien légué d'utile et d'utilisable pour l'avenir, et qu'il faut donc refonder en entier. Et c'est cette idée-là qui est lourde d'une violence extrême et sans limite. Et cette idée-là est présente dès le début. Et c'est un phénomène unique dans l'histoire. Alors certes, il y a eu dans la Révolution anglaise des courants comme ça, mais rien de comparable à ce qui se passe en France en 89.
C'est tout de même Mirabeau, Mirabeau modéré, qui dit « Il nous est permis de croire que nous recommençons l'histoire des hommes
».
C'est une phrase à la fois une belle phrase.
C'est une très belle phrase, oui.
Très belle phrase.
Mais enfin, une grandiloquence qui peut faire peur aussi.
Oui.
Mais est-ce que l'idée métaphysique, pour le coup, que tout est volonté, et que précisément la Révolution ne rencontre pas d'adversité, mais seulement des adversaires, des ennemis, que la politique, c'est la lutte contre les ennemis de l'humanité, c'est une formule enfin qui vient de Robespierre, je la cite approximativement. Est-ce que tout cela aussi est présent dès le début de la Révolution française? Ce qui m'amènerait à conclure, alors oui, que la Terreur est en germe, parce que si tous vos adversaires sont vos ennemis, la politique c'est la morale, et la morale est manichéenne.
Oui.
Patrice Guénifet.
Non, il y a un germe dès le début, mais voilà, ce n'est qu'un germe.
Ah oui.
Et c'est pourquoi que la Révolution n'est pas un bloc. Mais le germe, il est évident. Par exemple, quand Sieyès envisage, pour être entre soi et retrouver entre soi la pureté, comment dire, de la pensée, c'est d'exclure les aristocrates et de renvoyer les aristocrates dans leur lieu naturel, qui sont les forêts de Franconie. Donc, il y a quelque chose qui est présent dès le début et qui est l'exclusion des impurs pour se retrouver entre soi et dans la pureté absolue.
Taine était un peu comme Burke. Hein. Il pensait lui aussi que si les Français avaient été des Anglais, ça serait beaucoup mieux passé que ça ne s'est passé. Et donc pour lui, le mal n'était pas tellement révolutionnaire. Dans l'interprétation de Taine, le mal est français avant tout.
Oui.
Et Taine remonte au XVIIe siècle et à l'absolutisme pour expliquer la révolution dans ce qu'elle a eu de régénérateur d'une façon radicale et de violent. Et sans doute, il y a une part de vérité même ténue là-dedans. C'est-à-dire dans le fait que la France se distingue quand même par sa nature politique. C'est-à-dire où le rôle de la volonté, de l'action, donc de la force aussi, a joué un très grand rôle. Les Français n'ont pas, comme les Anglais, une société solide capable de limiter le pouvoir politique. Et par moments, on voit que le pouvoir politique déborde toutes les limites. Et je pense que là, il y a un facteur très important. C'est-à-dire que la Révolution, elle s'explique aussi par l'histoire de la France et ce qui la rend si spécifique dans l'histoire des pays occidentaux.
Oui,
enfin, je ne sais pas ce qu'on pense.
Si, la France est une nation politique et n'est pas une nation culturelle.
Ouais. Mais c'est une nation politique dans un certain sens aussi. C'est une politique des abstractions malgré tout.
C'est la même chose.
C'est une création au forceps.
La politique,
aussi.
Ça peut être lié aussi, comme les Grecs, à la prudence, à la sagesse pratique, à l'examen des cas. Et ça, c'est pas justement ce qui manque à la France, c'est un peu la phrénésie, qui était la qualité politique par excellence pour Aristote.
C'est l'étude des cas, l'étude des médiations, c'est la possibilité d'avoir des corps intermédiaires. C'est au fond ce que la République a fini par retrouver. Et en quoi la République s'est distinguée de la Révolution et n'est pas tout à fait fille de la Révolution, pas seulement.
Alors, puisque vous parliez de Taine, je voudrais citer dans les origines de la France contemporaine quelques passages de sa réflexion sur Robespierre, de son portrait de Robespierre. Ah, oui. Alors d'abord, il dit que...
Le cuistre.
C'est un cuistre. Le cuistre, c'est l'esprit creux et gonflé qui, parce qu'il est plein de mots, se croit plein d'idées, jouit de ses phrases et se dupe lui-même pour régenter autrui. Oui, c'est un hypocrite qui se croit sincère, un Caïn aussi, dit-il au respect, qui se prend pour Abel, qui est assez profond pour tout ce qui appelle justement l'énergie révolutionnaire quand elle bascule dans le crime. Et puis, vous citez Patrice Guénifet, cette réflexion, supprimer la révolution, et probablement Marat eut fini dans un asile, il y avait des chances pour que Danton devint un flibustier du barreau. Quant à Robespierre, il aurait continué comme il avait commencé, avocat appliqué, occupé et considéré, membre de l'Académie d'Arras, lauréat de concours, sa petite lampe allumée, comme cent autres de calibre égal, au foyer de la philosophie nouvelle, eût brillé modérément, sans brûler personne, et répandu sur un cercle de province, sa lumière banale, blafarde, proportionnée au peu d'huile que contenait son vase étroit.
Oui, c'est très joli. Je suis pas sûr que ce soit très juste, ni très équitable.
Parce qu'après tout, équitable,
tous les gens,
envie d'être équitable.
Tous les gens qui auraient vécu dans des circonstances normales et qui se trouvent précipités dans des circonstances extraordinaires voient leur vie bouleversée et aussi révèlent en eux des choses qui probablement seraient restées dormantes dans les temps ordinaires.
En revanche, ce qui invite peut-être plus à réfléchir que ce morceau de bravoure que j'ai cité, parce que
c'est magnifique.
C'est magnifique. Dans ce cerveau rétréci, livré à l'abstraction et accoutumé à parquer les hommes en deux catégories sous des étiquettes contraires, quiconque n'est pas avec lui dans le bon compartiment et contre lui dans le mauvais, et dans le mauvais compartiment, entre les factieux de tout drapeau et les coquins de tout degré, l'intelligence est naturelle. Tout aristocrate est corrompu, et là il cite, et tout homme corrompu est aristocrate.
Voilà.
C'est là qu'on voit quand même le mécanisme de la terreur se mettre en marche avec cette simplification, c'est la réduction de la pluralité humaine à deux. C'est la fascination du chiffre 2 dont Badiou parle dans son livre Le siècle sur le 20e siècle. C'est le 2.
Bah, le 19e siècle est aussi la malédiction du chiffre 2 ou du chiffre 3. Trois républiques, deux empires, deux monarchies, une restaurée,
mais là, c'est
une décollée.
Comme deux ennemis qui doivent tout à fait
mais
la
même je trouve
chose.
Quand même. Le texte de Taine, quand même, brille aussi par une sorte de fixité dans la détestation qui en fait ne rend pas non plus tout à fait justice. Là où je donne raison à ce qu'a dit Patrice, c'est que la révolution est plus grande que ses acteurs.
C'était la grande conviction de Marx, de tout le monde,
au 19e. Et que de toute façon, c'est vrai que la révolution a cette sorte de génie de transformer un homme qui fait des bourrimés dans les salons en Robespierre, ou un avocat obscur en Danton, ou un savant raté en Marat, etc. Donc la Révolution distribue des rôles qui effectivement grandissent ceux qui les acceptent.
Et peut-être que Taine aussi, oui, en voulant tout déduire de l'esprit christique, oui, succombe à ce qu'il reproche, oui, à l'esprit français.
À l'esprit,
oui,
systématique.
À l'esprit systématique.
Dont il est d'ailleurs un grand représentant, voilà,
il est
littéraire.
Représentant,
non,
voilà,
oui, oui.
Mais alors, maintenant, avançons un peu. Passons de la Révolution et de l'idée républicaine de la Révolution à la Révolution telle qu'elle s'est la République, pardon, telle qu'elle s'est instaurée, la Troisième République. Il me semble qu'il y a là un phénomène très intéressant parce que les héros de la Révolution sont présents chez les fondateurs de la Troisième République, mais ceux-ci, vous le montrez très bien dans votre livre sur Jules Ferry, Mona Ouzouf, se considèrent eux comme des héritiers et même des héritiers de tout le passé national. Donc ils acceptent, oui, la coupure révolutionnaire et en même temps ils la réparent, ils la résorbent.
Oui, ils la résorbent par l'enseignement de l'histoire. Et là-dessus, Ferry est tout à fait clair, il faut enseigner aux petits Français l'entier de l'histoire nationale. Alors il faut l'enseigner malgré tout dans le respect, dans l'admiration de la Révolution française. Et au fond, la Révolution française sert à tous ces auteurs de manuels d'histoire de la Troisième République, à la fois d'observatoire et un peu d'aune. C'est-à-dire c'est de l'observatoire de la Révolution qu'on juge le passé national, c'est-à-dire qu'on déroule la procession des rois bienfaisants, des grands ministres, etc., et qu'on décrit les crises possibles, c'est-à-dire les mauvais rois, les ministres qui sont peu intègres. Ce sont des crises, mais ce sont des crises de croissance qui, finalement, ne ralentissent pas la progression de la France vers plus de justice et de liberté. Et c'est la Révolution qui au fond, permet de juger dans cette histoire du passé. Voilà ce qui a pris le bon chemin et ce qui a retardé la marche de la France vers la justice et la liberté. Mais Ferry est très, très sévère pour ceux qui voudraient faire commencer l'histoire de France à un an 1 de la liberté, c'est-à-dire en Saint-Jean ou en reproduisant la Révolution française.
Ça, il ne le veut pas. Vous dites dans votre livre sur Ferry qu'il est l'homme des attaches et des liens, oui, chez qui règne la conviction d'appartenir à plus ancien que soi. Impossible et du reste peu souhaitable de trancher la touffe des racines du passé et de s'affranchir des souvenirs. Vous dites que c'est un homme de la mémoire et de la dette, et vous ajoutez que la fidélité à l'héritage est ce qui vient chez cet athée déterminé combler le vide spirituel des temps démocratiques. Elle dispense la seule immortalité à laquelle désormais les hommes peuvent prétendre, la survie dans le cœur de ceux qui les ont aimés. Et oui, et ça c'est l'héritage dans toute son ampleur. C'est ce que dit Renan, l'héritage indivis.
Oui.
Et c'est cela, malgré tout, justement, cette manière qu'a la République, dont nous sommes issus, peut-être, encore, c'est ça qui la distingue de la grande ancêtre révolutionnaire, Patrice Gallifet.
Moi, je crois que au fond, la République va être l'héritière du 19e siècle. Parce que c'est tout le 19e siècle qui redécouvre le passé. Après tout, fonder quelque chose de durable sur un principe, c'est impossible, c'est une utopie. Et donc, dès la Révolution finie, les héritiers de la Révolution, ce sont les premiers qui font le retour vers le passé. D'abord les historiens, Augustin Thierry, Guizot, Michelet, bien sûr, Michelet va inventer une histoire nationale, va lui donner l'existence. Tout ça pour enraciner aussi les principes auxquels il croit, les principes de 89, dans un passé plus ancien que la Révolution, pour la lester en quelque sorte. Et puis l'histoire, elle est revenue aussi, et je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais elle est revenue aussi avec l'épopée napoléonienne. Parce que l'épopée napoléonienne a été une manière de recoudre les deux histoires de France. Si bien que lorsque la République s'enracine après 1870, au fond, ce travail-là, l'histoire, elle a été récupérée dans le patrimoine national, et la Révolution et l'Ancien Régime sont les deux grands moments d'une même histoire. Je pense que c'est très largement fait et accepté lorsque la République s'enracine, globalement. Mona va pas.
Non, c'est vrai, je pense qu'il faut pas négliger le traumatisme de la défaite de 70 dans tout cela, parce que c'est ce traumatisme-là qui permet à Ferry et aux grands législateurs républicains de réussir leur entreprise, ce qui n'est pas quand même simple, parce qu'il faut aussi découpler la République de la terreur.
Tout à fait.
Et des souvenirs révolutionnaires, c'est une des grandes choses que fait Ferry.
Question.
Et donc, il y a cette première, rendre la République aimable aux Français, et en particulier aux paysans.
Ah oui, c'est ça.
C'est découpler la République de la terreur.
Mais parce que les paysans avaient peur de la République. Vous citez des expressions qui étaient tout à fait incroyables. Sur Gambetta, non ? C'est le Grand Bêta.
Le Grand Bêta, oui, mais ça c'est ce qui était perçu dans les provinces lointaines. Vous savez, en 48, on disait aussi que les femmes avaient pris le pouvoir parce que Lamartine et Lamarie étaient au gouvernement.
Oui, c'est ça.
Donc...
ils ont voté en masse Napoléon III.
Mais bien sûr.
Hein, les paysans.
Bien sûr.
Oui. Et on a eu longtemps peur du vote des femmes aussi, parce qu'on pensait que ça allait être un vote très conservateur, par ailleurs. Est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles, c'est une petite parenthèse, pour lesquelles on a reculé l'octroi du vote?
Bien entendu, les partis radicaux étaient vent debout, contre le vote des femmes, qui mettaient les prêtres, qui faisaient du confessionnal l'arbitre du vote.
Bien, alors...
C'était Michelet.
Kinet, Michelet, toute la philosophie républicaine.
Alors, maintenant, je fais encore un bond, et j'en viens, sinon à l'actualité, du moins au temps présent. Parce que vous avez publié « Histoire de la Révolution de l'Empire », Patrice Guénifet, et dans la préface très mélancolique de ce livre, vous vous interrogez sur ce qui reste aujourd'hui de l'idée de révolution. Donc d'abord, j'examinerai cela, et après, je voudrais qu'on s'interroge aussi sur ce qui reste de l'idée même d'héritage. Donc, je voudrais prendre l'histoire en ces deux sens. Mais, vous avez dit Mirabeau, il nous est donné de refaire l'histoire des hommes. Voilà. La révolution, on fait l'histoire, la volonté est au cœur, la volonté politique peut modifier les choses, et vous semblez dire que aujourd'hui, il n'en reste rien. Soit que les individus se sentent dépossédés des décisions, soit même peut-être que pour la gestion de leur vie, ils s'intéressent à autre chose. Alors qu'en est-il exactement, Patrice Guénifet ?
C'est vrai que l'idée est assez simple. C'est-à-dire que le 18e siècle, en général, faut le prendre comme un terme un peu générique, avait inventé une conception, ou forgé une conception de l'histoire, une conscience de l'histoire et une conception de la politique qui lui était liée et qui reposait sur la double idée du progrès d'un côté, c'est-à-dire l'idée que demain sera meilleur qu'hier, et sur l'idée de la possibilité d'une action collective. Et je pense que la révolution ou les révolutions depuis le XVIIIe siècle ont été une expression paroxystique, extrémiste, tout ce qu'on voudra de cette conception de l'histoire, mais que tout ça formait une unité, et que de ce point de vue, même le marxisme appartient à cette culture occidentale et libérale, à sa façon. Et que la crise du communisme a emporté l'idée de révolution en elle-même, dans toutes ses variantes, pour ne laisser la place qu'au sentiment de la fatalité, et de l'impuissance à changer les choses, et à maîtriser l'avenir, et à détruire aussi bien l'idée du progrès. Et on a vu dans les années qui ont suivi la chute du mur, je ne suis pas un nostalgique du communisme du tout, mais on a vu dans les années qui ont suivi la chute du mur se répandre le sentiment de la fatalité et le règne de l'économie, qui a été un peu le symptôme et l'effet de cet effondrement de notre concept, de ce qui a été si longtemps, pendant deux siècles, notre conception de la politique. Voilà, c'est une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut.
Vous citez Furet d'ailleurs à l'appui de cette idée. L'histoire apparaît d'autant plus souveraine que nous venons de perdre l'illusion de la gouverner. Mais est-ce que vous pensez que justement nous avons changé d'époque? C'est Maistre que vous citez qui dit cette phrase admirable, la révolution n'est pas un événement, c'est une époque.
C'est une époque.
Donc quelque chose. Est-ce que là nous sommes entrés dans une nouvelle époque qui, si vous voulez, qui serait celle de l'éclipse de la politique?
J'en sais rien, mais ça y ressemble.
Ça y ressemble.
Ça y ressemble.
Oui, il est vrai aussi que nous avons le sentiment d'être un peu...
Alors, sans doute, c'est pas partout pareil. C'est-à-dire que dans les pays qui ont renoncé à leur existence en tant qu'État, ou qui cultivent des chimères pacifistes de protection permanente et perpétuelle, probablement le phénomène paraît plus accentué. C'est-à-dire, si on est dans un pays comme Israël ou dans un pays comme les États-Unis, sans doute on n'aura pas ce sentiment, parce que ce sont des pays qui continuent à exister en tant qu'État, à avoir une diplomatie, une politique étrangère, à essayer d'avoir une vision de leur avenir, etc.
Oui.
Donc c'est un phénomène sans doute essentiellement ouest-européen.
Puis il y a un sentiment de menace existentielle dont nous sommes voilà, fort heureusement préservés. Oui. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi, là je pose la question à tous les deux, du rapport que nous entretenons à l'Europe aujourd'hui? Parce que tout le monde s'alarme du référendum anglais sur l'Europe, en disant c'est horrible, mais peut-être que si on faisait un référendum, tous les peuples demanderaient une forme de sortie ou une renégociation, d'autant plus qu'il y a les processus économiques. Mais il y a aussi des processus démographiques sur lesquels nous n'avons jamais été consultés, qui ont complètement modifié le visage des nations et l'Europe a favorisé cette mutation. Et en même temps, donc on vit un moment étrange avec l'Europe. C'est-à-dire c'est l'apothéose du sentiment démocratique et c'est la confiscation de la démocratie.
Oui, moi, je crois que l'effacement dans nos pensées de l'idée de révolution tient essentiellement à la crise de l'idée d'avenir et à l'impossibilité pour nous de penser que l'avenir sera meilleur pour nos enfants que pour nous-mêmes. Or, c'est ce qui a soutenu la République et l'idée républicaine en France. Les sacrifices demandés par les législateurs républicains aux paysans français... mettez vos enfants à l'école, vous vous en privez dans le travail des champs, dans le travail de la maison, etc. Mais c'est pour un bien futur. C'est quelque chose qui a vraiment porté tout l'enseignement, toute l'école républicaine. C'est une idée qui a tout à fait perdu son éclat et sa capacité de convaincre. Personne ne peut dire que... les enfants vont avoir moins de mal que leurs parents. C'était avoir moins de mal, c'était ça qu'on entendait dans les campagnes françaises. Donc c'est ça qui décolore, je crois, essentiellement l'idée de révolution. Et ce qui décolore aussi l'idée de révolution, probablement, c'est que plus personne ne met son bonheur dans les mains de l'État.
Mais ce que dit Patrice Guinifet, c'est que par-delà la crise peut-être terminale de l'idée de révolution, il y a une crise de la politique comme telle, c'est-à-dire de l'idée d'un changement que la politique apporterait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le slogan de l'actuel président de la République, c'était « le changement, c'est maintenant », mais le changement nous arrive avec le changement climatique, c'est maintenant, personne ne l'a voulu, et effectivement, ça rend pas l'avenir figurable au sens de progrès.
Bien sûr.
Donc, mais oui, il y a là quelque... Oui,
est-ce qu'une menace ne peut pas... Est-ce qu'une menace nouvelle ne peut pas... réactiver des enjeux qu'on a oubliés. Oui, moi, je suis moins certaine que vous de la désertion de l'idée de la politique et de l'idée de révolution et de l'idée du changement.
Non, parce que je crois que tout ça est aussi à lier à un changement du rapport au temps et à la durée.
Oui.
C'est-à-dire que le sens des générations solidaires est quand même quelque chose qui n'a plus la même force et la même évidence qu'auparavant. Et tout de même, on peut pas parler de révolution anthropologique, mais quand même de révolution culturelle. C'est-à-dire cette idée au fond que le monde commence avec moi et finit avec moi. Voilà. Et ça, c'est quand même, on le voit dans les évolutions de la société, c'est quelque chose qui est très puissant. Alors ça ne veut pas dire que tout est écrit, parce que je ne crois pas à l'histoire écrite à tout jamais. Et en effet, comme vous le dites Mona, il est vrai que la vertu des menaces, c'est au fond de réorienter les choses et de
créer l'unanimité, oui.
Bien sûr, de créer de l'unanimité, de écoute, modifier l'avenir. Oui,
j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que les manifestants du 11 janvier défilaient en pensant que le monde commençait avec eux? Non. Pas du tout. Ils manifestaient avec l'idée plus ou moins explicite, plus ou moins consciente, qu'ils étaient dans le droit fil d'une tradition française.
Oui, j'ai manifesté le 11 janvier, j'ai trouvé ça très réconfortant comme événement. Je suis pas comme Emmanuel Todd, qui a trouvé ça horrible. Je trouvais ça réconfortant.
Ah oui, il a trouvé que c'était une manifestation raciste.
Voilà,
c'était plusieurs millions à s'être réunis pour cracher sur une religion discriminée et minoritaire. Et il l'a dit avec la bénédiction, hélas, de l'Obs, qui avait titré au lendemain du 11 janvier « Continuons le combat ». Mais je ferme cette douloureuse parenthèse.
Oui, il y a des grands journaux. Avoir été grand, ça ne veut pas dire qu'on le reste toujours. Mais oui, Non, bien sûr, c'était une profession de foi ou l'attachement à des valeurs républicaines. Bon, maintenant, est-ce que ça détermine une volonté réelle d'action? J'en suis pas sûr.
Non, probablement.
Je sais pas. Je pense qu'on est dans une période intermédiaire et qu'on est passé d'un monde qui était celui de la guerre froide à un autre monde, et que probablement c'est une période de transition qui va durer, et une période de l'histoire particulièrement opaque où on ne sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait.
Mais pour revenir à cette question d'un présent omniprésent, aggravé aussi par l'industrie du divertissement, les réseaux sociaux, c'est intéressant, en termes de réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout Internet est là pour que nous communiquions, et quelle est la place de la transmission dans un monde régi par la communication, elle est de plus en plus étroite, et surtout, il me semble que c'est l'idée même d'héritage qui est remise en cause aujourd'hui. Certes, on enseigne encore l'histoire, mais on ne se dispute plus sur le fait de savoir, sur le fait de choisir entre l'ancien régime et l'Europe des Lumières ou l'Europe du 19e siècle, puisque même celle-ci est aujourd'hui jugée criminelle. Peut-être que ça va changer, mais dans le projet de réforme de l'enseignement du collège, il s'agit d'étudier l'histoire du 18e et du 19e siècle sous ce titre, cet angle, un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux, échanges commerciaux, traite négrière. Donc, voilà. Vous voyez, on n'est plus dans
dans
la critique léguée par les Lumières, mais dans le masochisme moralisateur, pour reprendre l'expression d'Octavio Paz, qui s'applique aux Lumières elles-mêmes.
Oui, tout à fait.
Donc, qu'est-ce que ça va donner si à la fois un oubli de l'héritage parce qu'on est accaparé par le présent, et quand on s'en souvient, une répudiation?
Oui, il me semble que là, on a un exemple frappant de l'esprit révolutionnaire de la table rase, puisque si la révolution est enseignée, même ses origines, c'est-à-dire les Lumières, ne le seront pas, au titre de l'optionalité. Et comme on sait que il faudra bien prendre sur le temps des programmes, sur le temps d'enseignement, du temps pour les réunions interdisciplinaires, donc forcément tout ce qui est optionnel passera à la trappe.
Oui, mais
donc,
ça c'est pas optionnel, quand il dit l'Europe 18e, 19e, un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux, échanges commerciaux, traite négrière, c'est pas optionnel, mais c'est sous l'angle de la repentance.
C'est sous l'angle de la repentance. Il y a quand même un progrès, c'est que traite négrière est passé du singulier au
pluriel.
Je me demande quand même si dans les critiques qui pleuvent sur cette réforme, il n'y a pas quelque chose comme une illusion de l'exhaustivité, de la continuité, qui est complètement irréaliste, chimérique. Moi, je pense que si on pouvait penser que à l'origine de tout cela, il y a un assassinat prémédité, des comploteurs contre l'enseignement traditionnel. Ce serait bien si c'était vrai, parce que les comploteurs, on peut les identifier, on peut déjouer le complot. Le problème est beaucoup plus grave que ça. Le problème est en amont. C'est que désormais, ce qui est atteint, c'est la capacité d'attention, de concentration des élèves. L'attention dont Alain disait que c'était la faculté intellectuelle la plus précieuse.
Et Simone Veil après lui.
Et qui déterminait toutes les autres. On sait bien maintenant que l'essentiel de l'énergie d'un professeur ou d'un instituteur est d'obtenir un peu de silence, un peu d'attention, un peu de concentration.
Oui.
L'affaire des programmes, pour tout vous
et
dire,
quand
ça
même
paraît futile.
Écoutez, Mona Ouzouf, n'est-il quand même pas plus chimérique encore de vouloir, pour des raisons idéologiques, il ne s'agit pas de complot, il s'agit d'idéologie, vouloir diluer l'histoire de France dans une sorte d'histoire mondiale, et puis de changer l'enseignement de l'histoire du fait des nouveaux arrivants. Donc, du fait des nouveaux arrivants, comme la société est une société de la diversité, on va faire un enseignement de la diversité qui va être un enseignement mondialisé. Vous dites les capacités d'attention sont faibles. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nécessité, et aussi pour attirer l'attention des élèves, et peut-être aussi pour ce fameux vivre ensemble dont on nous parle tout le temps, justement de refaire une histoire de France?
Bien sûr.
Ah là, vous serez d'accord.
Mais bien entendu. Mais est-ce que l'histoire de France est totalement incompatible avec l'histoire de l'Europe? On peut pas non plus raconter. Ça dépend d'ailleurs dans quel ordre d'enseignement on se trouve. Moi, je suis tout à fait pour qu'on raconte à l'école primaire l'histoire de France aux enfants comme un récitatif avec de grands exemples et de belles histoires. Alors, on dira que c'est légende, mais il y a une vérité de la légende. Et les récits légendaires font partie aussi de l'identité. C'est pas le moment, à l'histoire dans l'enseignement du premier degré, de déconstruire. Il est bien temps, après, de critiquer ou de déconstruire. Mais là, vraiment, il faut tenir bon sur le récitatif de l'histoire nationale. En revanche, dans l'enseignement secondaire, est-ce qu'il y a vraiment un inconvénient à parler même de, je vais vous choquer, mais des histoires des groupes? Moi, je ne serais pas du tout hostile, à condition qu'on n'en fasse pas une histoire justicière de la repentance. Ça, c'est absolument abominable. Entrer dans une histoire qui ne comporte plus que des victimes et des bourreaux, ça serait le pire, bien sûr. Mais en même temps, je trouve qu'il ne faut pas se crisper là-dessus, malgré tout. Parce que vraiment, le problème est en amont.
Oui, je suis pas sûr de partager le constat, c'est la faute aux élèves. Parce que si on entend les profs, capacité d'attention, etc. Si on écoute les profs d'histoire, ils le disent, il y a moyen d'intéresser les élèves. Et il me semble que dans la réforme des programmes, le problème, c'est d'abord le manque de cohérence globale du découpage qui est fait entre la sixième et la troisième, et ensuite les choix qui ne sont pas des choix innocents. Même si, moi aussi, je ne pense pas qu'il y ait une volonté conspiratrice de faire disparaître toute trace de notre histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de facilité, et il y a aussi un peu de lâcheté dans tout ça. C'est-à-dire que ces choix, enseignement obligatoire, enseignement optionnel, sont là pour permettre aux enseignants de se débrouiller comme ils pourront avec les classes qui sont les leurs. Et que dans les endroits où il devient difficile de parler du judaïsme ou du christianisme ou de certains sujets, eh bien tout simplement les enseignants ou les directions d'école auront la possibilité de choisir.
Mais et là, c'est plus faux, parler... le judaïsme et le christianisme sont enseignés
en sixième.
Donc là, c'est faux.
Oui, à partir de la cinquième... il est bien précisé que l'enseignement de l'islam est obligatoire et que l'enseignement du christianisme
il est déjà.
Mais l'autre devient optionnel. Et ça, c'est un des choix. Pareil au 18e avec les Lumières qui, deviennent optionnelles, même si, comme la Révolution est obligatoire, les enseignants, bien sûr, parleront un peu des Lumières. On ne peut pas parler de la Révolution sans les Lumières.
Et puis, le présent... fait rage pour ce qui est de l'enseignement du français, puisque les objectifs, désormais, c'est se chercher, se construire, vivre en société, participer à la société, regarder le monde, inventer des mondes, agir sur le monde. Où est la littérature? Où sont les grands auteurs? Mais je ferme ce débat, peut-être un peu brutalement, parce que je voudrais, Mona Ouzouf, que vous nous parliez un peu, ça n'a rien à voir, mais c'est un chapitre absolument merveilleux de votre livre, de Marie-Antoinette. Parce que nous lui devons quelque chose, c'est l'invention du privé, dites-vous. C'était l'invention du privé à la cour de France. Et il y a une petite réhabilitation de Marie-Antoinette sous votre plume, je la connaissais de la part de Stefan Zweig, mais de la part de Mona Ouzouf, c'est plus inattendu, et je dois dire que j'étais très touché. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ce Marie-Antoinette?
Oui, je peux, mais je me demande si vous m'avez bien lu, parce que...
Ah, mon Dieu.
je ne sais pas. Oui, effectivement, Marie-Antoinette essaie de reconstituer à Trianon un espace privé où le roi lui-même doit montrer patte blanche pour rentrer, etc. Et voilà. Mais en même temps, je crois que Marie-Antoinette est quand même une personne très... Comment dire, c'est une obstinée, c'est une rusée, une obstinée à la fois. Et qui s'échine à ne pas écouter les bons conseils qu'on lui prodigue, que Barnave, par exemple, lui prodigue dans le dialogue qu'ils ont tous les deux. Non, je pense que mon portrait de Marie-Antoinette est moins...
Non, mais vous avez cette phrase, enfin, ce paragraphe quand même que je vais citer, On peut montrer en Marie-Antoinette la femme qui s'ingénie à protéger son espace privé. Oui. On doit la rendre au sens le plus matériel. Dans l'étouffante épaisseur d'un palais aussi densément peuplé, il a fallu tailler des passages secrets, tel celui qui offre aux époux royaux le luxe inouï d'une nuit commune sans que la cour en soit informée.
Oui, c'est épouvantable, la cour. Oui, Versailles est épouvantable. Il n'y a pas une minute de tranquillité, de solitude, de silence, d'intimité.
Maintenant, c'est le journalisme qui est épouvantable. Parce que ils n'ont pas beaucoup d'intimité, les rois actuels, même les présidents, d'après ce que
je peux dire. Aucune. Voilà.
Aucune. Donc vous ne réhabilitez pas Marie-Antoinette, mais quand même vous lui faites ce crédit.
Oui, je lui fais ce crédit, mais Marie-Antoinette n'est pas. Non, Louis XVI est beaucoup plus intéressant.
Ah, vous diriez que Louis XVI est plus intéressant.
Ah oui, il est beaucoup plus intelligent, bien sûr.
Quoi qu'il n'entende pas mieux les conseils qu'on lui donne.
Il n'entende pas mieux les conseils, mais il est plus intelligent.
Oui, il est plus intelligent, mais il est très jeune. Elle est arrivée très jeune.
Non, mais voilà, c'est une jeune personne qu'on a, voilà.
Elle s'est je crois qu'elle a eu un comportement très digne une fois qu'elle a été emprisonnée.
Oui, absolument.
Tous les deux, leur fin les a rachetés.
Oui. Leur fin les a rachetés.
Ils n'avaient pas su être des monarques à la hauteur du rôle créé par Louis XIV, mais leur fin les a rachetés en tant qu'individus.
Et en tant que chrétiens aussi, ils avaient appris à mourir, en tout cas.
Alors, je terminerai sur une question. Est-ce que vous avez lu Le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas ?
Oui.
Oui, il y a longtemps,
Parce que je viens de lire le livre de Pierre Bayard, qui adorait Le Chevalier de Maison Rouge, et qui s'imagine dans l'histoire, et il dit qu'il va sauver Geneviève d'Ixmer, l'héroïne qui, justement, voulait elle-même sauver la reine. Est-ce que ce que dit Alexandre Dumas dans Le Chevalier de Maison Rouge a quelque rapport avec la vérité historique sur Marie-Antoinette, sur l'emprisonnement de Marie-Antoinette, etc.?
Il y a eu des tentatives pour les libérer. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti. Probablement même Danton a essayé à un moment, ce qu'on dit, de les faire évader, mais ça n'a pas marché.
Mais je pensais à ça, parce qu'en lisant ce livre, je ne l'ai pas terminé, je pensais aux aveux du roman, parce qu'il y a chez Alexandre Dumas aussi la volonté, malgré tout, de faire un lien entre les deux France, un amour de la France révolutionnaire et aussi une grande admiration pour la France d'avant, pour la France chevaleresque.
La France des manières, la France chevaleresque.
Donc vous auriez pu consacrer un chapitre à Dumas dans...
Oui, sûrement.
Voilà.
Sûrement.
Il est peut-être pas trop tard. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre. Alors, Mona Ouzouf, je rappelle le titre de votre dernier livre, publié dans la magnifique collection Quarto chez Gallimard, de la Révolution en République, Les chemins de la France. Et Patrice Guénifet, j'ai cité Histoire de la Révolution et de l'Empire, publié dans la collection Timpus. Vous trouverez de toute façon les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Politique de Maurice Blanchot » et mes invités seront Jean-Luc Nancy et Michel Suria. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Clément Daté. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet, en direct des rencontres de Genève, la Suisse, une île pour la paix, avec Irène Herrmann.